Very Good Bowie Trip.
Tout un été en compagnie de David Bowie. 9 épisodes pour raconter le parcours d'un artiste insaisissable qui n'a jamais cessé de mourir pour mieux renaître.
Very Good Bowie Trip. Les 9 vies de David Bowie.
Aujourd'hui, on va entrer au cœur du paradoxe de David Bowie. Pourquoi et comment un chanteur élégant et charismatique comme une star de cinéma, une des plus grandes célébrités de ce début des années 80, a-t-il décidé de tout détruire pour réémerger anonyme au sein d'un obscur groupe de rock industriel, alors que le succès international tout public venait d'arriver grâce à ça que vous allez reconnaître à quelques nuances près. Bien sûr, tout le monde, ou presque, a reconnu la chanson la plus célèbre de David Bowie, le tube auquel il était impossible d'échapper à l'été 1983. Et oui, Let's Dance, présent partout à la radio, dans les discothèques, sur les plages. Vous l'avez peut-être relevé, la version qu'on vient d'entendre n'est pas tout à fait la même que l'original. Il s'agit en fait d'une orchestration récente de cordes adroitement greffées sur l'enregistrement initial. Un anachronisme, oui, mais pas un sacrilège, puisque cette réorchestration est l'œuvre même de celui-là qui, il y a près de 40 ans, avait contribué à créer en studio cette chanson illustre, j'ai nommé le réalisateur artistique new-yorkais Nile Rodgers. Alors même si vous ne le connaissez pas, en fait si, forcément vous le connaissez, Nile Rodgers avait dansé la terre entière grâce à des tubes anciens, hein, comme le Freak, c'est Chic, signé par son groupe Chic, et puis plus récemment, comme invité de marque, il a contribué au célèbre Get Lucky de Daft Punk. David Bowie a dit un jour de lui, Nile Rodgers est le seul homme qui m'a persuadé de commencer une chanson directement par le refrain. Une formule qui résume tout le paradoxe de ce tube signé par David Bowie en 1983. Oui, ceux qui avaient été les tout premiers à capter le génie de Bowie, comme le grand critique anglais Nick Kent, ont alors clamé leur consternation. « Mets tes chaussures roses et danse le blues, difficile selon lui de faire plus inepte ». À lui, comme à d'autres, Let's Dance a paru totalement cru. Mais enfin, c'est pas un avis qui a pesé bien lourd, une faible clameur isolée au milieu d'un concert de louanges. En effet, les plus jeunes qui ne connaissaient rien à Bowie ont été transportés par cette chanson qui donnait envie de danser et d'être heureux d'une façon peut-être nouvelle. Bowie apportait un souffle de grandeur, de majesté même, qui avait de quoi les rendre fiers d'être jeunes. La voix ample de Bowie, chantant à plein poumon, en tout cas au début de la mélodie, avait de quoi vous exalter, vous faire sentir plus grand que vous n'étiez vraiment. Le clip de Let's Dance, tourné par le réalisateur anglais David Mallet, a aussi beaucoup marqué. Il faut rappeler que tout était encore magique en ce temps-là, on n'était pas blasé, les images des musiciens étaient rares et elles fascinaient. Dans un coin, appuyé contre un mur, David Bowie chante, une guitare électrique en bandoulière, il est flanqué d'un contrebassiste. Il a les cheveux peroxydés, il porte une chemise claire et un large pantalon à pince à la mode de ces années-là. Les clients, assis au comptoir, regardent deux jeunes de travers, l'air de se demander ce qu'ils font bien là. Alors où sommes-nous en réalité ? Eh bien, en Australie, dans un coin perdu de la Nouvelle-Galles du Sud, non loin du parc naturel de Warrumbungle. Ça se trouve à 6 heures de route au nord-est de Sydney, dans les terres. Il faut rappeler que dans ces années-là, David Bowie réside à Sydney une partie de l'année. Et il a pu se rendre compte qu'en Australie, il existe toute une population, les aborigènes, qui sont en butte à une sorte de ségrégation ou d'apartheid. Ce qui l'a évidemment scandalisé, d'où son intention alors, je cite ses propos exacts, de montrer une population moderne à laquelle on interdit de participer au monde moderne. Alors, tout le monde connaît Let's Dance, tout le monde a le sourire et monte le son du transistor quand démarre ses vocalises. Du début, tout le monde connaît David Bowie comme on connaît Michael Jackson. Reste une question centrale. Comment David Bowie est-il parvenu à un tel succès universel ? Par quel tour de magie cet artiste qui a mis en scène la décadence, le mal-être et la froideur, qui a incarné dans la sphère du rock le sommet de la théâtralité, a-t-il fini par se confondre avec ce personnage chantant Let's Dance, naturel et décontracté, à la souriante élégance, universellement appréciée? C'est assez mystérieux à première vue. Blue Jean, une chanson rock'n'roll signée David Bowie, dont le style et le thème rappelaient la naïveté des années 50 et 60. J'ai rencontré une fille qui s'appelle Blue Jean, être avec elle, c'est plus doux que le paradis, etc., etc. Une chanson d'inspiration rétro, certes, mais au son typique du milieu des années 80, celui qu'on pouvait entendre par exemple dans les tubes de Phil Collins, étincelant ou clinquant avec ses sons de batterie évoquant l'explosion de feux d'artifice. Un succès, un de plus, signé par David Bowie en 1984. La chanson figurait dans un album qui s'appelait Tonight, sorti à la fin donc de cette année-là. Dans laquelle figurait également la chanson qu'on a entendue juste avant, Loving the Alien, dont le thème, alors tout au contraire de Blue Jean, n'a rien, lui, de léger, puisque Bowie évoque les Sarrasins, les Templiers, Israël, la Palestine, la violence destructrice et absurde des guerres de religion. Mais j'ai un peu accéléré la vitesse de déroulement du film et il me faut revenir à l'étonnante genèse de la chanson Let's Dance, qui fut en 1983 le pivot de sa carrière, en tout cas l'acte de naissance d'un nouveau David Bowie. Comme je vous le disais, l'association de David Bowie avec Nile Rodgers, un musicien noir new-yorkais de premier plan, va lui ouvrir les portes d'un succès triomphal. Cependant, rien n'est gagné d'avance, bien au contraire. En fait, David Bowie a fait un pari extrêmement risqué. En rupture de contrat discographique, il a décidé d'investir personnellement, sur ses propres deniers, dans la production et la réalisation d'un nouvel album. Alors évidemment, il n'a pas intérêt à se tromper. De son côté, Nile Rodgers a besoin de se relancer. Comme compositeur, comme réalisateur artistique, il a été le roi de la période disco, mais tout ça est un peu passé. Et en 1982, quand Rodgers rencontre Bowie, il n'a pas eu de tube depuis plus de 2 ans, puisque Upside Down de Diana Ross remonte à 1980. Il espère donc que travailler avec Bowie va redorer son blason, le remettre dans la course. Alors la rencontre de Bowie et Rodgers est tout à fait bizarre. Une nuit à New York, le chanteur anglais Billy Idol, déjà bien imbibé, conduit Rodgers, juste avant l'aube, dans sa Maserati, vers un bar de nuit. Idol repère au bar David Bowie, tranquillement installé, buvant un jus d'orange au comptoir, vêtu d'un complet passe-partout. Personne, absolument personne ne l'a reconnu, apparemment, sauf Idol, qui fond sur lui et tient absolument à lui présenter Nile Rodgers. Rodgers, de son côté, est fasciné par Bowie depuis qu'une dizaine d'années auparavant, une fille hippie un peu décadente l'a entraîné sur une plage nudiste à Miami et a dansé nu devant lui sur la musique de l'album Ziggy Stardust. Alors pour lui, Bowie représente le summum du bizarre et de l'étrangeté. Et évidemment, il est totalement déconcerté de voir Bowie en complet, tranquillement assis là, sobre et normal. Et pourtant, la connexion se fait. Rodgers connaît personnellement déjà les musiciens que Bowie a fait jouer dans son album Soul, Young American, sorti en 1975. Et la connaissance que Bowie a de la soul, mais aussi du jazz, va absolument subjuguer Rodgers. Ils parlent jusqu'à 5h du matin de leur passion, par exemple, pour les grands compositeurs orchestrateurs de l'histoire du jazz qui fascinent Bowie, dont Henry Mancini et Quincy Jones. Il décide donc de se revoir. Et quand ça a lieu, eh bien Bowie explique ce qu'il a en tête. Enregistrer un album de rock'n'roll moderne, mais qui aurait l'ampleur cinématographique et la majesté chorégraphique des orchestrations de jazz de la grande époque. Bowie et Rodgers se revoient, ils partent ensemble à la recherche d'enregistrements des années 50, ils dénichent des affiches de vieilles photos. Et un jour, Bowie tombe sur une photo du pionnier du rock'n'roll Little Richard, un de ses premiers modèles. Et sur cette photo, Richard est vêtu d'un costume rouge vif, il a l'air d'un enfant extraterrestre, et on le voit entrer dans une Cadillac rose qui ressemble à un vaisseau spatial. Et Bowie dit à Rodgers, voilà, ce que je cherche, c'est une musique qui fait exactement cet effet-là. Une fête foraine, rétro et futuriste à la fois. Bowie n'a pas beaucoup de nouveaux titres, mais il sait exactement ce qu'il veut. Un tube, comme il le dira à Rodgers. Il veut devenir une méga star. Alors, il faut rappeler que c'est une période particulière pour lui. Il se sent libéré par un divorce de son mariage boiteux avec Angie, sa femme américaine, et de plus, il a obtenu l'autorité parentale exclusive sur leur fils, Joey. Il déclare alors vouloir transmettre du bonheur et de l'espoir à lui-même comme à son public. Et il confie dans une interview que ses déclarations sur la bisexualité au temps de Ziggy ont été la pire erreur de sa vie. Et oui, pourquoi ? Parce que, dit-il, elles lui ont fermé la partie la plus conservatrice du grand public. Il fait donc venir Nile Rodgers chez lui, en Suisse. Bowie va le chercher personnellement à l'aéroport de Genève, dans son légendaire coupé Volvo noir, et Rodgers s'installe chez lui. Un matin, alors que Rodgers est encore dans sa chambre, Bowie frappe à la porte. Il l'entr'ouvre et il apparaît armé d'une guitare folk à 12 cordes, dont la moitié, selon son témoignage, est manquante. Et il se met à chanter à Rodgers « Let's Dance ». Et oui, on aurait dit, selon le témoignage du producteur, une chanson folk de Donovan qu'aurait interprété le chanteur anglais vieillot de comédie musicale Anthony Newley, de fait un des modèles de Bowie. Rodgers va tout de suite pourtant imaginer une orchestration. Il va solliciter Claude Nobs, l'organisateur du festival de jazz de Montreux, pour faire venir en studio des musiciens travaillant dans le coin. Et en deux jours seulement, les maquettes des 8 chansons de l'album Let's Dance vont être bouclées. Un album que Rodgers et Bowie, et leurs musiciens bien sûr, achèveront en 17 jours au studio The Power Station à New York, respectant des horaires de bureau 10h30-6h du soir. Pour Bowie, le pari sera gagnant au-delà de ses espérances. Fort de cet enregistrement, il signe un contrat de 17 millions de dollars avec la branche américaine des disques EMI. Et devinez quoi, eh bien, l'album se vendra à 11 millions d'exemplaires dans le monde entier, soit plus que le premier album de Madonna, pour vous donner une idée. La tournée Let's Dance, longue de 7 mois, va parcourir 15 pays et se jouer à guichets fermés. 96 concerts en tout, 2 600 000 billets vendus. Et c'est tout le fascinant paradoxe de David Bowie. Ce triomphe international sera également pour lui à la source d'une certaine perdition.
Very Good Bowie Trip sur France Inter.
The World Falls Down, une chanson d'amour écrite et interprétée par David Bowie pour les besoins d'un film dont il était la vedette, Labyrinth, hein, comme labyrinthe. Il y incarne un personnage assez maléfique, Jareth, le roi des lutins, ou gobelin, voilà, si vous préférez, une espèce de Peter Pan, voilà, Peter Pan décadent, coiffé d'une longue perruque de cheveux blonds couleur paille en épi, hein, qui date bien le film sorti en 1986. Alors, malgré le caractère extrêmement daté des sonorités synthétiques que vous avez entendues, imitant naïvement des nappes de cordes classiques, As the World Falls Down est sans doute une des plus belles interprétations de toute la carrière de David Bowie, une ballade empreinte de désolation dont les paroles disent à la fin « Tandis que le monde est en train de tomber, tomber amoureux, ça n'a aucun sens ». Juste avant, eh bien, on a entendu « This is not America », autre sommet de la période, une chanson que Bowie a créée pour la BO d'un film d'espionnage, « The Falcon and the Snowman », le jeu du faucon en français, sorti en 1985 dans lequel jouait un jeune Sean Penn. Le réalisateur du film, John Schlesinger, avait demandé à l'auteur de la musique, le jeune guitariste et compositeur de jazz américain Pat Metheny, de transmettre à David Bowie un thème à partir duquel celui-ci devait trouver un air et des paroles. Alors Metheny n'avait jamais entendu parler de David Bowie. Il a raconté par la suite à quel point il avait été subjugué par la précision de Bowie et surtout son talent vocal, puisque dans This Is Not America, le chanteur chante en chœur avec lui-même, adoptant pas moins de 3 voix différentes. Alors il est peut-être temps d'aborder à présent un pan non négligeable de l'activité de David Bowie dans ses années 80 qui l'ont rendu mondialement célèbre, le cinéma. Comme je vous l'ai raconté lors d'un épisode précédent, David Bowie s'était confondu de manière troublante avec le personnage de Newton, l'extraterrestre du film The Man Who Fell to Earth, l'homme qui venait d'ailleurs sorti en 1976. Au point d'ailleurs d'adopter un portrait de lui interprétant ce personnage afin d'illustrer la pochette de son album Low. Quelques années plus tard, en 1983, alors même qu'on entend partout Let's Dance, on présente au Festival de Cannes un film qui fait l'événement. Furio, en japonais, ça veut dire prisonnier de guerre, ou bien en anglais Merry Christmas Mr. Lawrence, du cinéaste japonais Nagisa Oshima. David Bowie y interprète le rôle d'un militaire, le capitaine Jack Sellers, un militaire britannique que l'armée japonaise a fait prisonnier sur l'île de Java en 1942. Sellers est un homme courageux qui s'engage dans une sorte d'épreuve de force avec le commandant du camp japonais, le capitaine Yonoi, incarné lui aussi d'ailleurs par un musicien, Ryuichi Sakamoto. L'épreuve de force est nourrie par la fascination mutuelle qui aimante ces deux hommes qui vont s'affronter l'un et l'autre, évidemment refusant de céder. Oshima avait d'abord pensé à Robert Redford pour le rôle de Sellers, mais il n'a eu qu'à se féliciter à la fin du choix de David Bowie. Je cite les propos de Oshima. « C'est la spiritualité de Sellers, la noblesse qui est en lui, sa paix intérieure et son indestructible charisme qui vont déconcerter ses ravisseurs japonais. Et, selon moi, David Bowie possède toutes ces qualités. » Pourtant, David Bowie n'est pas très heureux. Pressé par sa maison de disques, qui tient à battre le fer quand il est chaud, il se voit contraint de retourner en studio quelques mois à peine après avoir achevé sa triomphale tournée « Let's Dance ». Perché dans un studio situé dans un village de montagne au Québec, Bowie enregistre « Tonight », un album pour lequel il n'a pas eu le temps de se préparer comme il le souhaitait. Mais il n'a pas le choix. Durant cette période, David Bowie éprouve une impression nouvelle. De faire désormais partie du décor. Il est aimé, oui, il est respecté, on célèbre son influence, mais, faut dire ce qui est, David Bowie ne passionne plus. Et il ne se passionne plus, ce qui est sans doute pire. Il pense, non sans raison d'ailleurs, que les nouvelles générations ont cessé de s'intéresser à lui. Et Bowie tombe, selon son propre témoignage, dans la déprime, remplaçant la cocaïne par l'alcool. Et pourtant, au milieu de l'année 1985, va se réactiver en lui un véritable volcan de passion et d'énergie. Ce sera à l'occasion du célèbre concert mondial Live Aid, organisé par l'Irlandais Bob Geldof, afin de venir en aide à toute une population en proie à la famine en Éthiopie, Éthiopie qui est victime d'une atroce guerre civile. C'est la première fois qu'un concert est transmis simultanément à la télévision, depuis Londres et Philadelphie, dans le monde entier, devant, dit-on, 2 milliards de téléspectateurs. Alors, toutes les stars du moment y participent. Pourquoi ? Parce qu'en disant oui, David Bowie a convaincu beaucoup de ses pairs d'y participer. Alors, quand c'est au tour de David Bowie de monter sur scène à Wembley, il est fébrile. Il a enfilé un sobre complet crème. En compagnie de ses musiciens, il monte dans l'hélicoptère qui doit l'emmener sur le site. Dans la cabine, il fume cigarette sur cigarette, malgré les avertissements du pilote qui lui répète que c'est interdit. Et quand il atterrit, qu'est-ce qui se passe ? 200 photographes l'attendent. Bowie va saluer à l'horloge le prince Charles et la princesse Diana. Il entend la foule hurler. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle a été soulevée par le passage du groupe Queen qui n'a jamais sans doute donné un meilleur concert de sa vie. Alors évidemment, ça le tétanise, il est mort de peur, il pense qu'il ne va pas être à la hauteur et il y va vraiment comme s'il allait devant un peloton d'exécution. La terreur qu'il ressent pourtant va le transcender. Bowie est absolument extraordinaire. Le chanteur soul qui est en lui interprète pour conclure son show une version de Heroes qui est d'une intensité exceptionnelle. Bowie semble totalement en transe, il sort même en pleurs, bouleversé par la réaction du public. Un sursaut de passion l'a traversé, alors que cette passion, craignait-il, était en train de l'abandonner. Un an plus tard, en 1986, on montre au Festival de Cannes une comédie britannique Absolute Beginners. Bowie joue un rôle dedans, c'est pas le plus mémorable, c'est surtout la chanson-titre qui est mémorable, Absolute Beginners, signée par David Bowie durant une période où, de son propre aveu, il s'est quelque peu perdu, mais il saura renaître, et de la plus surprenante des façons. There's nothing much to take.
Hotlines, to lay down the hotlines,
une chanson de David Bowie que peu de gens ont entendue, hormis bien sûr les passionnés et les inconditionnels, Baby Universal. Une chanson qui n'est même pas signée David Bowie, mais du nom d'un groupe, Tin Machine, dans lequel David Bowie a alors souhaité se dissoudre. Un groupe à faible notoriété, dont le second album, Tin Machine 2, a été rejeté par la compagnie de disques à laquelle David Bowie était lié jusque-là et qui a finalement été diffusé à la fin de l'année 1991 par une marque obscure financée par le fabricant de matériel électronique JVC. Alors, que s'est-il passé entre-temps ? Que s'est-il passé après le triomphe de Let's Dance, ses 11 millions d'albums vendus et ce passage inoubliable à Live Aid en 1985 ? Comment David Bowie a-t-il pu en arriver là ? Eh bien, comme je vous le disais, de son propre aveu, Bowie a sombré dans une forme de dépression. Il fera d'ailleurs plus tard à ce sujet une déclaration surprenante. Je le cite. « Ma plus grande erreur, dans les années 80, a été d'anticiper ce que je croyais être les désirs du public. Je me détestais. Assez bizarrement, mon ambition tend à se manifester dans ces moments de dépression. » D'abord, Bowie a eu un premier sursaut. Après sa mauvaise expérience de l'album Tonight en 1984, dont il estime avoir bâclé l'enregistrement, il a repris les rênes pour son album suivant Never Let Me Down, qu'il a entrepris d'enregistrer à Montreux, juste après avoir assisté son camarade Iggy Pop pour l'enregistrement de l'album de ce dernier, Bla Bla Bla. Contrairement à ses deux précédents albums, Let's Dance et Tonight, David Bowie ne se contente pas d'y être chanteur. Il co-réalise l'album, il joue de la guitare, du saxophone, des claviers et de l'harmonica. Il décide de faire venir auprès de lui son ami des années de collège, Peter Frampton, éphémère rockstar au milieu des années 70. Un guitariste soliste hors pair dont David Bowie veut mettre le talent en lumière, ce qu'il fera durant la tournée qui suivra. David Bowie pressent à juste titre que l'époque est en train de changer, qu'une certaine insouciance propre à un certain versant des années 80 est en train de s'effacer. Dans les chansons de l'album Never Let Me Down, sorti en 1987, Bowie évoque la face sombre des années 80. Par exemple, les sans-abri, la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Mais au fond, c'est un peu peine perdue. Le succès est toujours là, mais on n'attend plus de lui qu'il crée l'événement. Il fait partie du décor. Alors il en est conscient et surtout, il en souffre beaucoup.
Very Good Trip, les 9 vies de David Bowie. Mishka Assayas.
En fait, Bowie est à la croisée des chemins. Il a 40 ans. Comme il le dira, je le cite toujours, « J'aurais pu à ce moment-là choisir la réclusion, me consacrer à l'art visuel, peindre, sculpter, ce qu'il a d'ailleurs jamais cessé de faire parallèlement, faire mon Gauguin, comme il l'a dit drôlement. Or, c'est une voie diamétralement opposée que David Bowie va suivre. Il décide, en effet, de descendre délibérément de son piédestal et même de le briser. Le hasard d'une rencontre a précipité une révélation à laquelle, sans doute, Bowie se préparait inconsciemment. Celle d'un musicien new-yorkais, originaire du quartier de Staten Island, Reeves Gabrels. Au début, David Bowie a plaisir à parler avec ce garçon, passionné d'art contemporain, marié à une attachée de presse qui travaille pour lui. Bowie croit même d'abord qu'il est peintre. En fait, Gabrels est guitariste. Alors très vite, Bowie et lui parlent musique et s'échangent des cassettes. Bah oui, je vous rappelle, on est à la fin des années 80. Des cassettes notamment d'enregistrements pirates vintage de concerts des groupes Cream et Led Zeppelin. Cependant, ce qui intéresse le plus David Bowie et même le passionne, ce sont les nouveautés que Gabrels lui fait écouter. Des nouveautés apparues au sein d'un tout autre monde que le sien, celui du rock alternatif américain. Pixies, Sonic Youth, Dinosaur Jr. Il décide donc d'entamer, sur ses bases, une première collaboration. Gabrels débarque en Suisse chez Bowie, d'abord juste pour un week-end, il va en fait y rester un mois. Et à l'occasion de leur conversation, eh bien Bowie lui confie qu'il est malheureux de ses derniers albums. Trop de pression, trop d'anticipation de ce que le public attendait, il n'a pas pu y mettre tout son cœur. Gabrels lui répond très simplement « Bah écoute, il faut que tu refasses des albums pour toi-même ». Alors Bowie et Gabrels vont écrire ensemble des chansons simples, des chansons à deux ou trois accords. Et Bowie va pousser le jeu encore plus loin. Il est traversé par une idée fulgurante, une idée folle qui lui donne la fièvre. Repartir à zéro, ne plus être David Bowie. Renaître en tant que simple chanteur d'un groupe, comme s'il avait 18 ans. Il a alors l'idée de solliciter deux musiciens américains qu'il connaît bien, les frères Tony et Hunt Sales, respectivement bassistes et batteurs, deux garçons originaires de la ville de Détroit qui ont joué avec son ami Iggy Pop. Deux types, entre parenthèses, avec lesquels il vaut mieux pas rigoler. Comme le dit un journaliste qui interviewe alors Bowie, « Toi et Reeves, vous êtes l'hémisphère droit et gauche du cerveau. Quant aux deux frères Sales, c'est un peu les deux testicules. » Le groupe s'appelle « Tin Machine ». Alors c'est peu dire que le succès ne va pas être au rendez-vous. « Tin Machine », la machine en ferraille, se produit dans de petites salles. Beaucoup d'amoureux de Bowie sortent les oreilles martyrisées de ses concerts au son grunge et industriel, et parfois même avant la fin. C'est peu dire qu'ils n'y trouvent pas leur compte. Pas plus d'ailleurs que EMI, la compagnie de disques de David Bowie, qui, je vous l'ai dit, va carrément refuser de publier le second album de Tin Machine. David Bowie, qui se fait alors pousser une petite barbiche, n'en a cure. Il est heureux. L'aventure, cependant, ne va pas se prolonger et Bowie, réaliste, va s'embarquer entre les deux albums de Tin Machine dans une tournée solo, classique, au décor sobre, baptisée Sound and Vision, où il chante ses plus grands succès. Deux ans plus tard, en 1992, David Bowie retrouve Nile Rodgers pour un album qui va véritablement marquer sa renaissance artistique. L'épisode de Tin Machine n'aura pas été vain. Alors, 9 ans après Let's Dance, il y a un malentendu entre les deux hommes. Rodgers, de son côté, croit que Bowie veut faire Let's Dance numéro 2. Alors il va vite déchanter. Parce que ce n'est pas du tout l'idée de David Bowie qui veut, quant à lui, renouer avec l'esprit expérimental de la fin des années 70, mais en l'enrichissant de l'expérience de ses succès des années 80. Comme l'album Low en 1977, l'album Black Tie White Noise, qui sort en 1993, démarre par un instrumental, The Wedding Song, évocation du remariage récent de Bowie avec la mannequin somalienne Iman. La musique est une sorte de jazz-funk mélodieux traversé par des sons synthétiques. On y retrouve sans doute l'entière personnalité du chant de David Bowie et même une certaine froideur inquiétante, ce mélange de feu et de glace qu'il a toujours caractérisé à son meilleur. Comme on peut l'entendre dans cette très belle reprise d'une chanson signée par un des modèles de sa jeunesse, Scott Walker, et qui s'appelle « Night Flies ».
Trendy rush of fate. I'm with you, so I can't go on. All my violence raining tears upon the sheets. I'm bewildered, for there's strangers when we meet. Black screen TV, greening ourselves in the snow. Forget my name, but I'm over you. Blended sunrise, and it's a dying world. Humming Rango, we scavenge up our road. Upon the sheets, I'm resentful for where strangers were we meet. Having out your memories, halfway sadness, dazzled by the new, the open release. It was all that I feared, that whirling room. We trade by puncture.
Strangers when we meet, des étrangers quand on se rencontrera, une des plus belles chansons signées et interprétées par David Bowie au cours de cette première moitié des années 90, période qui a marqué chez lui une véritable renaissance artistique. Alors les connaisseurs de Bowie ont avancé, non sans raison, que cette chanson s'adressait à son ex-femme Angie, qui venait alors de publier un livre, un témoignage à charge sur leur vie commune, mais derrière cette image de l'étranger se cache peut-être une autre dimension propre à l'essence même de Bowie, celle de la folie, de la schizophrénie, l'homme éternellement étranger à lui-même, qui ne se reconnaît pas quand il se croise. Un thème que David Bowie explorera en profondeur dans sa production expérimentale des années 90, que nous aborderons dans l'épisode suivant de son captivant parcours artistique.
Very Good Bowie Trip, Mishka Assayas sur France Inter.